Donc bonjour, merci d'être venus si nombreux. Je vais vous parler de mon voyage. J'ai fait un voyage à vélo avec ma cousine. On est parti pendant 21 mois de France et on avait décidé de partir en fait uniquement un an jusqu'à Pékin à vélo avec un thème, c'était la recherche de musique traditionnelle. Il se trouve que pendant qu'on roulait, on s'est épanoui dans ce voyage, on a aimé ça de plus en plus tous les jours. Et à tel point qu'en cours de route, à partir de la Jordanie à peu près, on avait une idée fixe, c'était ne pas dépenser trop et arriver à faire un tour du monde, c'est-à-dire continuer au-delà de Pékin, rouler en Asie du Sud-Est, remonter en Amérique du Sud et après rouler en Europe du Sud. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est appliqué à faire notre travail de notre mieux. Notre travail, ça consistait à enregistrer des musiciens dès qu'on les trouvait, mais pour les trouver, il faut les chercher. Et une fois qu'on les avait dénichés, de passer un peu de temps avec eux, d'établir une vraie relation intéressante, qu'on puisse leur faire écouter des musiques des pays voisins qu'on avait traversés, et aussi de pouvoir les enregistrer, s'ils acceptaient, mais quasiment toujours ils acceptaient. Par ailleurs, on avait une autre démarche, on avait emporté avec nous une caméra mini DV qui permettait de filmer notre vie au quotidien et aussi les recherches et les trouvailles de musiciens, évidemment les rencontres avec ces musiciens. Et quand on est revenu, on avait de la chance, la boîte de production avec qui on travaillait a décidé de monter des épisodes qui sont diffusés à la télévision et de monter aussi un film de 58 minutes. Qui passera ce soir sur les chaînes Mezzo et Voyage, les chaînes du câble. Donc pour vous, j'ai resitué un petit peu, j'ai fait un voyage de Paris à Pékin à vélo, à la recherche de musique traditionnelle. Et le voyage s'est étendu, c'est devenu un tour du monde, parce que qu'on roulait, on s'est mis à tellement apprécier le contact avec les gens tous les jours et tellement aimer de découvrir des pays de la selle du vélo qu'il a fallu qu'on continue. Donc, au bout de 21 mois, on est arrivé à Paris et là, on a travaillé d'arrache-pied pour sortir un livre qui est ici. Je pourrais vous le montrer éventuellement, mais je suis là pour vous parler du voyage essentiellement. Alors, le but de ce voyage, c'était de chercher des musiques traditionnelles, évidemment, mais surtout de rencontrer des gens, de rencontrer des humains. À l'origine, j'étais allé faire un tour en Syrie avec un ami et j'avais tellement aimé le contact avec les Bédouins que je me suis dit... Il faut que je retourne, que je comprenne ce qu'ils ont dans le ventre. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gentils? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi accueillants? Pourquoi est-ce que chez nous, l'accueil, ça n'existe pas beaucoup? Et comment je peux m'imprégner de leur culture et faire vivre aux autres ce que j'apprécie chez les autres? Donc, je suis retourné en Syrie à vélo. Et ma cousine, qui voulait aller, elle, en Mongolie, monter à cheval, a embrayé sur le sujet et est partie avec moi en juillet 99. Tous les jours on roulait environ entre 60 et 100 km. Le but c'était pas de faire un exploit sportif. J'ai laissé aux sportifs le côté défense physique. Pour moi c'est pas de la compétition, c'est uniquement découvrir un paysage d'un vélo qui fait pas de bruit et de pouvoir rencontrer des gens spontanément, leur demander éventuellement un verre d'eau, échanger quelques mots avec eux et puis partir. Et puis à partir des pays musulmans, là c'est beaucoup plus difficile de partir si rapidement parce que quand on est sorti de l'Europe et qu'on est arrivé en Tunisie, les gens spontanément venaient vers nous et nous disaient « Bonjour, comment ça va? Dis donc, est-ce que t'es pas trop fatigué? Viens manger chez moi, il y a la nourriture qui est prête. » Et en général, on avait la difficulté à refuser parce qu'on crevait de faim. Et quand on dînait avec eux, ils nous disaient « Évidemment, tu restes à dormir ici. » Et c'est l'hospitalité musulmane. Donc, j'ai tout de même retracé en grosses lignes les pays par lesquels on est passé. On est parti de Paris. On a roulé en Europe du Sud, ça veut dire France, Italie, Sicile. Ensuite, on a pris un bateau qui nous a mené en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'on a repris la route à partir de la Tunisie. On a descendu la Tunisie et on a roulé en Afrique du Nord à l'horizontale vers l'est, donc Libye, Égypte, Jordanie. Après, il a fallu remonter. L'objectif étant Pékin, on a contourné l'Arabie Saoudite, ça veut dire donc Jordanie, Syrie, Turquie, Iran, Pakistan. Le Pakistan s'est très bien passé, pour info. C'est un pays merveilleux et les gens étaient adorables et très très accueillants, une fois de plus. Et à partir du Pakistan, c'est devenu un peu plus difficile. Il se mettait à faire vraiment très chaud et terriblement humide. Donc, quand on a traversé l'Inde, physiquement, ça devenait très 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 pénible. Et à partir de l'Inde, On voulait à tout prix aller en Mongolie pour le Naadam, qui est une... La Mongolie, c'est au sud de la Russie, au nord de la Chine. C'est, le Naadam, c'est la fête du cheval, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est une grande course organisée dans chaque ville du pays, et auquel, à ces courses participent une centaine d'enfants, par exemple, les enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Donc on voulait y arriver pour le 11 juillet, impérativement, Isabelle étant fan de chevaux et voulant absolument assister à cette course. Après la Mongolie, on est redescendu en Chine, jusqu'à Pékin, et comme on aimait ce voyage, on a voulu continuer, et on a roulé en Asie du Sud-Est. Ça veut dire Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Singapour. Et c'était aussi une très très belle partie du voyage, on n'a vraiment pas regretté d'avoir continué comme ça. Bon, là, l'argent commençait à se tarir un petit peu, on n'avait plus beaucoup de sous. Donc, au lieu de parcourir toute l'Amérique du Sud, ce qui était un peu illusoire, on a roulé qu'au Brésil. On a parcouru 2500 km à peu près au Brésil. Le Brésil, c'est un pays gigantesque, hein. Ça fait 17 fois la France, facilement. 17,45 fois la France. Et au Brésil, on a été époustouflé par la beauté des paysages, la beauté des gens, de l'architecture. C'est un pays qui est placé sous le signe de l'esthétique. Quelquefois dans les mœurs c'est moins facile, mais en tout cas côté esthétique, architectural, c'est dément. Et après le Brésil, on a repris un avion, argent oblige, on a repris un avion qui nous a mené au Portugal. Et au Portugal, Espagne, France, on a été relativement vite parce que on avait fixé une échéance, on avait donné rendez-vous à des télévisions, des journalistes, mais aussi tous les amis et toute la famille pour le 15 avril dernier, c'est-à-dire que le voyage a duré 21 mois du 10 juillet 99 au 15 avril 2001. Au Portugal, donc dans les deux derniers pays, au Portugal et en Espagne, on a trouvé aussi beaucoup de musique qui était très intéressante, des musiques notamment à Coimbra, le fado de Coimbra qui est très différent du fado de Porto, du fado de Lisbonne, pardon. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la musique, des musiques qu'on a trouvées ici et là. Isabelle et moi, Isabelle, c'est ma cousine, et elle a décidé de partir avec moi, ce qui n'est pas évident, de partir avec son cousin pendant tant de temps. Mais elle est un peu sportive et surtout très attirée par la rencontre avec les autres, et elle adore les musiques du monde. Et ça, c'est elle qui m'en a imprégné essentiellement avant le voyage, de musique africaine, ce qu'on n'a pas tant trouvé que ça, mais et aussi de musique asiatique. Donc, on n'est pas musicologue, on n'est pas musicien, mais on savait que c'est un thème qui est fantastiquement intéressant, que ça nous permet de rencontrer des gens et que ça permet de partager quelque chose de beau avec quelqu'un. Quand on arrive chez quelqu'un, on peut lui faire écouter les musiques qu'on a enregistrées dans son propre pays. Forcément, ça lui parle. Forcément, il va être heureux et il va nous en faire écouter d'autres. C'est un moyen d'échange, en fait. Donc, en tant que pas musicien, on avait du mal à sortir un violon et à jouer devant les gens, parce que ça, on était évidemment incapables. Mais en revanche, assez facilement, on allait dans chaque capitale, on allait dans une université, par exemple, ou une école des beaux-arts. On essayait de rencontrer des professeurs de musique, ça c'est jamais très compliqué. On regarde les grilles des horaires, on essaie de mettre la main sur un prof. On lui expose notre projet, on lui explique qu'on voyage à travers le monde à bicyclette et qu'on recherche des musiciens. Et en général, il nous réorientait sur un musicologue dans la ville qui connaissait particulièrement bien la musique de son pays. Ensuite, une fois qu'on avait pu mettre la main sur le musicologue, ça prenait une semaine, hein, ce genre de démarche. Une fois qu'on avait rencontré le musicologue et obtenu quelques renseignements pour savoir dans quel pays, dans quel coin du pays, on pourrait rencontrer des musiciens, soit on essayait de téléphoner à ces musiciens en espérant qu'ils soient chez eux, soit on allait directement chez eux à l'aveuglette sans savoir s'ils étaient chez eux. Donc ça voulait dire que quelquefois on devait faire un détour de 300, 400, 500 km uniquement pour rencontrer un hypothétique musicien. Fort heureusement, les musiciens, ils vivent rarement de leur musique dans ces pays-là, donc ils vont en travail, et s'ils en travaillent, ils doivent rester dans leur pays, dans leur région, ce qui fait qu'on avait beaucoup de chance de les retrouver. Et quand un musicien nous voyait arriver dans son petit village au fond de nulle part, tout transpirant qu'on était, dégoûtant et amaigri quelquefois, et qu'il savait qu'on avait traversé, parcouru tous ces kilomètres pour le rencontrer lui, en général, ça rendait la relation beaucoup plus étroite et beaucoup plus chaleureuse. Et à partir de là, souvent, ils nous disaient, écoutez, je joue toutes les semaines avec mes amis, mais aujourd'hui, je vais essayer de les réunir tous pour vous. On va vous faire une petite soirée, ça va être sympa. Et effectivement, c'était sympa. La grande chance de voyager à vélo aussi, c'est de pouvoir prendre du temps, et dès qu'on s'arrête dans un bar pour boire un café ou manger quelque chose, on entend la musique locale qui passe à la radio, qui passe à la télévision, et petit à petit notre oreille se forme. Si on était arrivé comme ça, de brut en blanc, dans un village, et qu'on entend une musique locale qu'on n'a jamais écoutée, c'est souvent un peu indigeste et pas facile forcément. Mais là, comme l'oreille était formée, on pouvait dire « Tiens, c'est drôle, cette sonorité-là, je l'ai entendue dans la région d'avant » ou « Tiens, j'ai jamais entendu ça, mais c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime parce que ça me fait penser à d'autres sonorités du pays précédent. » Et donc, les gens, les musiciens voyaient qu'on s'intéressait réellement à leur musique. Et quand ils nous voyaient enthousiastes, ils continuaient, ils jouaient. Ce qui fait qu'on a enregistré énormément. On a enregistré une soixantaine d'heures de musique qu'on a pu rapporter. On enregistrait ça sur un support numérique, un mini-disque. On avait deux micros externes qu'on plaçait devant les instruments ou devant, par exemple, la personne qui chantait et devant un instrument. Et on rapatriait après, par courrier, tous les disques et toutes les cassettes vidéo qu'on avait enregistrées vers la France. La boîte de production, qui avait décidé de monter nos films, utilisait ces enregistrements audio, utilisait les cassettes vidéo pour monter le film au fur et à mesure. Et quand on est arrivé après les 21 mois de voyage, quand on est arrivé en France, ils ont pu nous montrer quelques épisodes qu'ils avaient montés, où on réécoutait, on redécouvrait toutes ces musiques. Et c'était vraiment un pur bonheur, parce que à chacune de ces musiques, on associait une émotion et une rencontre et des souvenirs incroyables. Maintenant, je vais vous parler de la vie au quotidien. Comment on faisait pour vers quelle heure on se levait, combien de temps on roulait, qui on rencontrait. Donc, ma cousine et moi, on est très très différents. Elle, c'est une lefto, c'est une photographe, c'est une esthète, c'est une artiste, et c'est une impulsive. Mais impulsive, mais passionnée. Impulsive dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'elle se passionne délibérément tout de suite pour quelque chose qui l'intéresse, qui l'accroche. Et moi, c'est un peu le contraire, je suis un leftard. Je suis très réfléchi, j'ai besoin de prendre du temps pour m'imprégner d'un sujet. Et passionné, oui, mais si je m'en suis vraiment imprégné, si c'est quelque chose que je prends à cœur après l'avoir absorbé, ce sujet. Donc, ça voulait dire que quelquefois, Isabelle me parlait d'une rencontre qu'elle avait eue, qui avait été géniale, qui avait été fantastique, qu'il faut poursuivre, il faut aller rencontrer les copains de ce type-là. Et moi, je suis plus mesuré, plus tranquille. Et donc, quelquefois, il y avait des petits clashs entre nous. Alors, au quotidien, ça veut dire que Isabelle se levait à 5 heures du matin. Elle voyait une lumière magnifique à l'extérieur de la tente ou à l'extérieur de la maison où on était. Elle me disait, Xavier, réveille-toi. Il faut faire des photos. Il faut aller tourner quelque chose. Viens sur la montagne d'à côté. On va regarder ce lever de soleil. C'est splendide. Et moi, quand je dors, je dors. Donc, je l'entendais même pas. Alors ça a provoqué des petites frictions, et petit à petit, de fil en aiguille, les petites frictions sont devenues des grosses frictions. Alors c'était pas qu'une question de se réveiller tôt ou pas tôt, c'était aussi que quand Isabelle voulait manger, j'avais pas envie de manger, quand je voulais manger, elle en avait ras-le-bol, elle était déjà bien garnie. Quand elle voulait s'arrêter pour peindre quelque chose, moi j'avais justement déterminé, je m'étais dit je veux arriver à telle ville aujourd'hui et quoi qu'il arrive je le ferai. Donc petit à petit, il y a eu des torsions à travers notre petit duo. Et on a décidé, à partir de la Libye, du fait de cette entente qui n'était pas tous les jours optimale, de se séparer et de se retrouver. Ça veut dire qu'à partir de Tripoli, on s'est séparés 15 jours. Elle a roulé de son côté, j'ai roulé du mien. Et on s'est retrouvés à la frontière libyenne, à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Les retrouvailles ont été très fraîches et au bout de 3-4 heures ensemble, on s'est aperçu qu'on s'entendait super bien et qu'on avait des milliers de choses à se raconter tout à coup et qu'il n'y avait plus ces tensions. On est resté 3 jours ensemble et au bout de 3 jours, on s'est dit tout de même ça vaudrait le coup de se reséparer, de se réoxygéner un peu. Donc on s'est reséparé, on s'est retrouvé à Alexandrie. Entre temps, elle a bien roulé et moi j'ai eu des problèmes intestinaux épouvantables parce que j'avais bu de l'eau, une eau pas possible. Donc je roulais avec un mal de ventre effrayant et je suis arrivé en retard au rendez-vous. Elle était un peu tendue parce que j'étais en retard. Et là, on a re-rencontré des musiciens qui étaient extraordinaires. Et sous le signe de la musique, on s'est à nouveau réentendu bien. On est allé au Caire ensemble. Et au Caire, c'était des musiques encore plus fantastiques. C'était avec un musicien qui s'appelle Abdou Daguerre. Toutes ces musiques, on peut les entendre bien sûr dans le CD qui se trouve à l'intérieur du livre. Ou on peut les entendre aussi sur le site internet qu'on a monté, Isabelle et moi. Donc au Caire, on s'est bien entendu et on a roulé ensemble le long du Nil jusqu'à la latitude de Sharm el-Sheikh. Et là, on a traversé la mer Rouge, on est rentré dans le Sinaï, on a vécu des heures inoubliables. Tout ça, je vous décris la vie au quotidien. Vivre dans, traverser le Sinaï à vélo, ça veut dire que vous êtes absolument tranquille, il n'y a pas un bruit autour de vous. Ce sont des montagnes rouges, ocre. Et quand la nuit tombe, quand vous arrivez dans la partie désert de sable, et que la lune éclaire le sable la nuit, donc, vous avez l'impression de rouler au milieu d'un paysage de cendres ou de neige. Et ça, vraiment, c'était nouveau pour nous. Et en plus de ça, pendant la traversée du Sinaï, c'était le Ramadan. Ramadan, ça veut dire que les musulmans jeûnent pendant la journée et qu'à partir de 5 heures, ils se remettent à manger. Et quand ils voient un étranger qui passe par là, qui a l'air évidemment affamé, ils le hèlent, ils nous disent « Oh, venez, venez, venez !» Alors que ce soit la police ou les habitants du coin, ils nous disent toujours « Venez, venez manger avec nous !» Et là, c'était des heures magnifiques. Parce qu'eux étaient contents de manger, contents de partager leur repas. C'est réaliser une bonne action pour un musulman pendant la période du Ramadan, pendant la période du Ramadan, ça compte double vis-à-vis de l'entrée possible au paradis d'Allah. Donc, ils étaient encore plus contents. Et nous, on était évidemment ravis. Et donc, on passait des heures merveilleuses. Alors, donc, par intervalles réguliers, on se séparait une semaine, on se retrouvait 2 semaines, on se séparait 2 semaines, on se retrouvait 3 jours. Ça dépendait vraiment, c'était aléatoire. Et systématiquement, on s'arrangeait pour se retrouver dans les capitales et rencontrer des musiciens par la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et passer du temps avec ces musiciens, pouvoir les revoir 2, 3, 4 fois, assister à leurs répétitions et toujours avec le désir de se former l'oreille. Et de fil en aiguille, à force de rencontrer un musicien, on en rencontre un deuxième, un troisième, un quatrième, et ça débouche sur des rencontres multiples. Et clairement, on s'est orienté vers cette direction-là et on n'a pas spécialement essayé d'aller visiter des sites touristiques, par exemple. Quand vous êtes à vélo et que vous vous promenez dans le désert et vous vous dites à 150 km d'ici, il y a une ruine magnifique citée dans tous les guides, ben vous laissez tomber. Parce que 150 km, c'est un jour et demi aller, un jour et demi retour, et puis il n'y a pas forcément de point d'eau entre les deux, pas forcément de nourriture. Donc on va droit au but, on cherche d'abord à rencontrer des gens, passer du beau temps avec eux, et puis rouler, et puis aussi chercher un peu la solitude. Parce que la solitude, ça permet de réfléchir, de s'évader, de sortir de l'agitation qu'on avait fui, l'agitation française. Maintenant, je vais vous laisser poser des questions sur, par exemple, quelles étaient mes motivations, qu'est-ce qui en est ressorti, ou tout ce qui vous intéresse. Tu peux avancer, s'il te plaît. Je t'entends pas très bien, si tu peux avancer un petit peu plus. Voilà. Ouais. Je vais revenir sur le premier point. C'est d'abord tour du monde. On appelle ça tour du monde parce que c'est très évocateur pour tout le monde, mais hélas, on n'a pas pu tout voir. On a traversé 21 pays et c'est très frustrant, hein, franchement. Quand on voit la beauté de l'Asie centrale, on ne rêve que d'une chose, c'est traverser le Kyrgyzstan, Tadjikistan, de voir un petit coin de la Russie, d'aller faire un tour en Océanie. On en crevait d'envie. Et forcément, quand on voit tant de beauté autour de soi, quand on rencontre des gens qui sont si merveilleux, parce que c'est l'impression qu'on avait au quotidien, on n'a qu'une envie, c'est de rester plus longtemps. On se dit un mois, mais c'est ridicule. Un mois, c'est assez pour connaître vaguement la vie d'un village. Traverser un village à toute allure comme ça, voir des têtes et qu'elles s'effacent au bout de quelques secondes, c'est extrêmement frustrant. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je serais resté 5 ans à voyager. Mais Isabelle, elle avait un peu plus envie de revenir. D'abord, elle a rencontré un Italien quand elle était en Mongolie, et avec qui elle s'est merveilleusement entendue. L'Italien rentrait travailler en Europe, mais ils ont échangé beaucoup de mails. Et l'Italien, quand on était au Brésil, l'Italien est revenu au Brésil pour rencontrer Isabelle. Et puis ensuite, quand on est allé au Portugal, l'Italien est revenu au Portugal, et ensuite en Espagne, et ainsi de suite. Donc Isabelle avait sacrément envie de revenir en Europe pour retrouver son italien. Et mine de rien, quand l'argent fait défaut, soit on travaille sur place, hein, et il faut faire attention pour les histoires de visa, soit on décide de revenir en France, d'essayer de tirer parti de tout ce qu'on a pu récolter comme musique et comme image. Et puis on se dit, je pourrais pas rester en France toute ma vie, ou alors pour vraiment une sacrément bonne motivation, ou alors que je sois paralytique, mais trouver une bonne excuse pour rester en France. Et j'en connais pas de bonne excuse pour l'instant. Alors, on n'est pas passé au Yémen et ça, c'est une des grosses frustrations. Un de mes rêves, c'est de faire un tour en Birmanie à vélo, au Yémen forcément, et puis évidemment, comme je vous ai dit, dans tous les pays d'Asie centrale et les pays d'Amérique du Sud que j'ai pas vu et d'Amérique centrale évidemment. Mais le Yémen, ça faisait partie pour moi des étapes que je voulais absolument, que je veux absolument connaître dans ma vie. Je sais que c'est beau, je sais qu'il y a encore des contrées relativement reculées où ils voient pas trop d'étrangers. C'est très authentique. Et puis cette architecture, c'est assez intriguant. Oui, en fait, le retour, c'est pas dur au sens où on l'entend. La plupart des personnes qui nous posent cette question disent « Est-ce que c'était dur de se retrouver plongé à Paris et enfermé à Paris et de retrouver un train-train ?» Bon, par chance, on n'est pas du tout tombé dans ce biais-là. Quand on est arrivé en France, d'abord, on était immergé dans le voyage, on rêvait la nuit du voyage. Quand on s'endormait dans la journée parce qu'on était fatigué, on rêvait du voyage. Et très rapidement, on s'est attelé à la préparation du livre. Et ça veut dire qu'on se plongeait systématiquement dans nos rêves et qu'on échappait complètement à la réalité parisienne. Métro, boulot, dodo, ça n'existe pas. C'est boulot, boulot, boulot. mais un travail absolument passionnant. Parce que sortir le livre, c'est approfondir toutes les connaissances qu'on a pu acquérir pendant le voyage. C'est rechercher dans les bibliothèques des informations, rechercher pourquoi telle musique a été écrite comme ceci, comme cela, quelles étaient les influences qui ont marqué, qu'est-ce que voulaient dire toutes les mélodies qu'on a entendues, faire la traduction des paroles, rechercher des Vietnamiens, des Cambodgiens, et tout ce que vous voulez pour qu'ils nous traduisent les paroles. Donc forcément, être au contact avec toutes ces cultures qu'on a adorées. Et maintenant que le bouquin est terminé, maintenant que le film est monté, maintenant que la promotion du livre a été bien entamée, c'est vrai qu'on retombe un petit peu et que forcément on a besoin de se projeter dans autre chose. Et personnellement, j'ai envie de me remettre au travail, mais j'étais ingénieur en informatique avant. C'est toujours un domaine qui m'intéresse, mais j'ai envie de changer de voie, essayer autre chose. Et par exemple, l'ingénierie du son. Je sais, la prise de son m'a toujours intéressé, tout ce qui est travail autour de la prise de son aussi. Mais c'est à Paris parce que j'ai pas réellement de compétences et il faut pour ça que je subisse une formation, que je suive une formation et que j'arrive à convaincre quelqu'un. Bon, je crois que les CD sont à peu près à la hauteur, les gens qui les écoutent me disent que ça leur plaît et à mon avis c'est une carte de visite à peu près valable. Donc j'ai confiance en l'avenir, je me fais pas trop de billes et en fait ce qui est ressorti de ce voyage et ce qui fait que j'en ai pas marre d'être en France, je suis pas malheureux ici, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, je peux faire quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Je sais que je peux compter sur des gens, je sais que si j'ai de l'enthousiasme et si j'arrive à trouver mon objectif, si j'arrive à définir un objectif, je foncerai tête baissée et d'autres me suivront et tout marchera. Mais il faut s'accrocher, il faut beaucoup de travail et surtout, il faut y croire. Ouais, on n'avait pas trop de revenus en arrivant, donc forcément, en travaillant pour le livre, je travaillais pendant la journée pour le livre, et pendant la nuit, j'étais prestataire en informatique, et j'allais travailler dans des entreprises. C'était en installation de serveurs, installation de systèmes d'exploitation, configuration de parcs informatiques. C'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, mais c'était épuisant. Parce que vraiment, les nuits, elles se réduisaient comme des pots de chagrin. Et dans les dernières nuits de la préparation du bouquin, j'avais des hallucinations. Quand je travaillais chez moi, je travaillais à l'ordinateur et je voyais mes parents qui passaient dans le couloir. Évidemment, ils n'étaient pas là. Je les entendais parler, ils n'étaient pas là. J'avais le cerveau qui décarochait complètement. Je regardais en face de moi, je ne voyais rien. Donc c'était la partie un peu difficile physiquement, mais ça n'empêchait pas que c'était hyper intéressant. Et le plus dur, c'est quand j'écrivais des choses, les mots n'avaient aucun sens. Ils étaient les uns à côté des autres et ce n'était pas la phrase que je voulais écrire. Donc on a travaillé, Isabelle pendant ce temps faisait des reportages photos, donc elle était aussi assez épuisée. C'est Isabelle, ma cousine, qui a au passage, elle a 27 ans et moi 31, c'est Isabelle qui a écrit tous les textes, donc ça voulait dire qu'elle s'est énormément investie dans ce travail et elle en sortait plus la tête en fait, donc c'était épuisant, vraiment épuisant. Et puis quand c'est écrit, après il faut relire, faire traduire, faire corriger. C'est vraiment un travail gigantesque, donc elle était épuisée, mais toujours passionnée. Et ça aidait. Heureusement d'ailleurs. Pour être honnête, on n'a même pas essayé. Le seul travail qu'on ait fourni pour un pays, c'est une conférence dans une école, un lycée français à Kuala Lumpur en Malaisie. Et Isabelle et moi, on s'était fichu pas mal de tâches sur le dos. Isabelle, elle est reporter et photographe. Ça veut dire que où qu'elle aille, elle voulait prendre des photos les plus magnifiques possibles et les renvoyer pour son agence de photos qui est Sigma Corbis. C'est une grosse agence. Et elle n'avait pas une obligation de résultat, mais si jamais ses photos n'étaient pas bonnes, elle était grillée, quoi. Donc il fallait absolument qu'elle prenne des belles photos et qu'elle se donne les moyens. Et quand on est photographe, ça ne consiste pas à avoir l'appareil photo sur le nombril et à en prendre quand c'est joli. Ça veut dire construire son sujet. Ça veut dire aller chercher des musiciens ou des gens dans leur vrai contexte, attendre le moment opportun, être toujours prêt à prendre une photo, par exemple cadrée, sur un endroit qu'on sait joli. On attend une demi-matinée et on attend que les gens passent. Et quand il y a une jolie expression, que les gens sont naturels parce qu'ils vous ont oublié tellement ça fait longtemps qu'ils vous voient à cet endroit-là, à ce moment-là, clac, il y a un cliché à faire. C'est énormément d'attente, beaucoup de travail, de la construction, de la recherche. Et c'est relativement ingrat. C'est épanouissant parce qu'il en ressort quelque chose de beau, mais c'est ingrat parce que c'est beaucoup de travail. C'est vraiment fatigant. Alors en plus de ça, on avait une caméra vidéo. Et faire un reportage vidéo avec une caméra vidéo, ça veut dire... On voit une scène, on voit un endroit qui est particulièrement joli, on a quelque chose à dire, on en profite, on sort la caméra, on la tient à bout de bras, et on roule, on tourne et on parle et on raconte ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie de dire, on parle spontanément et on tourne la caméra comme ça en cours de route et on arrive à voir le paysage, à voir les expressions stupéfaites des gens qu'on rencontre. C'est pas mal. Le problème, c'est quand on regarde, merde, c'est mal cadré. Et ça, c'est pas idéal. Donc, on revient derrière, on recommence. On tourne, on baratine, le ton est un peu moins bon, un peu moins naturel. Puis il y a un camion qui passe derrière, qui fait du bruit, ça sature dans le micro, ça va pas du tout, la vue était moche parce que le camion a tout bouché. On revient en arrière, on recommence. On se dit, bon, mon ton n'allait pas du tout, je recommence et j'y mets la même poigne que tout à l'heure. Et on commence 6 fois, 7 fois, jusqu'à ce que ce soit à peu près correct, jusqu'à ce que ce soit bon. Et le but, c'est jamais de mettre en scène, c'est de faire ressortir notre quotidien, de vraiment parler de ce qu'on a vécu. Donc là aussi, pour faire 10 km dans un paysage magnifique, on va pouvoir mettre une journée quelquefois. C'est une journée de... On s'arrête, on met le pied de caméra, on passe devant, c'est moche, on recommence, et ainsi de suite. De refaire les scènes, refaire les scènes, refaire les scènes, et on reste en naturel parce que c'est notre naturel qu'on met en scène, qu'on met sur l'image, qu'on fixe. Alors si ça s'arrêtait là, ce serait beau. Mais on avait aussi un site internet. Et le site internet, à remettre à jour, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que il faut écrire tous les textes qui vont dans le site. Écrire, ça veut dire mettre un premier jet, le faire lire par quelqu'un, épurer, le faire corriger, le réécrire, et ainsi de suite. Donc au bout d'une journée, un texte pouvait être pondu, mais c'est un texte qui était la maturation de tout ce que, c'est Isabelle qui les écrivait, la maturation de tout ce qu'elle avait pensé pendant le mois. Donc, une journée à écrire, c'est assez ingrat et pas évident. D'autre part, il faut y mettre des photos. Donc, on va récupérer le caméscope, on branche le lecteur de disquette à l'intérieur, on récupère sur les disquettes toutes les scènes qui nous paraissent intéressantes en photo. On les transmet à l'ordinateur, on travaille un peu les photos avec Photoshop pour qu'elles soient belles, atténuer les flous, renforcer des couleurs et recadrer. Et une fois que c'est fait, on peut les envoyer sur le site internet. Et on veut aussi mettre des musiques. Donc on récupère le lecteur de mini-disques, on numérise les musiques, on les met sur l'ordinateur, on les travaille un peu pour délimiter le début, la fin, on les compresse. Le tout dans le tout, la remise à jour du site internet, tous les mois, ça prenait un bon 5 ou 6 jours, matin, midi et soir, tout le temps, intensif. Et comme évidemment, on n'avait pas de quoi s'offrir un hôtel, on travaillait dans un bar. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui viennent dans les bars, on se branche sur la prise de courant. Et on espère que le patron du bar va être assez patient pour qu'on puisse travailler et consommer 2 cafés dans la journée. Et on travaille d'arrache-pied tout le temps. Et quand les clients viennent, ça se fait pas de les envoyer balader. Donc s'ils nous posent des questions, il faut rester poli et gentil avec eux. Isabelle travaille pendant que je parle avec eux, ou le contraire. Mais en tout cas, c'est énormément de travail. Et ça veut dire que sur tout le mois, il y avait 7 jours de recherche de musiciens où on sillonnait la ville et sillonnait la campagne pour les retrouver. 7 jours à 15 jours de vélo intense, il fallait foncer pour accéder au point qu'on s'était fixé. Une petite semaine pour la mise à jour du site internet, et tout le reste, ça concernait, on essayait de caser quand on pouvait le travail sur les dérushes de ce qu'on avait filmé. Ça veut dire rescénariser, repréciser où on a filmé ceci, qui on a rencontré, quels sont les noms, les adresses. quels sont les musiciens qu'on a enregistrés, les noms, les adresses, pour garder contact avec eux. Il y a ainsi de suite beaucoup de travail de préparation pour que la boîte de prod puisse construire un film qui se tienne à peu près après. Donc finalement, on n'avait pas le temps de travailler professionnellement pour gagner de l'argent. Donc on devait vivre sur les économies et donc on devait dépenser peu et vivre de façon relativement austère. Mais c'est pas vivre de façon austère qui rend malheureux, croyez-moi. On avait beaucoup de plaisir à faire tout ça. On est dans la mesure où on essayait d'atteindre le meilleur, on essayait de réaliser le meilleur travail possible. On s'y investissait complètement. Ça canalisait toute notre énergie et on adorait ça. Et si c'était à refaire, évidemment. Et si c'était à refaire, évidemment, on le referait. On a rencontré France Bleu Nord il y a 3 semaines. C'est une radio qui dépend de Radio France et qui émet à Lille. Et le directeur de la radio nous a demandé si ça nous intéresserait de faire une émission sur les musiques du monde pour lui de façon hebdomadaire à partir de septembre prochain. Bon, ça reste à construire, ça reste un projet à monter de A à Z. Mais c'est évident que cette démarche de rechercher des musiciens, de vivre, de rencontrer des gens, on a adoré ça d'un bout à l'autre. Et évidemment, on fonce tête baissée dans ce qu'il nous propose. Quelques questions ? Quelques projets en cours ? En fait, on hésitait entre le vélo ou le vélo. Ça répondait le mieux à tout ce que je me fixais comme objectif. D'abord, ça fait à peu près 15 ans que je roule à vélo, 15-16 ans, je roule à vélo dans Paris. Et la raison pour laquelle je continue, c'est que vélo égale liberté. Quand tu roules d'un point à un autre, tu prends le chemin que tu veux, tu regardes ce que tu veux, tu t'arrêtes pas au feu si t'as pas envie, tu fais vraiment ce que tu veux. L'essentiel, c'est de respecter l'environnement, respecter les autres, pas les écraser, pas les effrayer. Et regarder tout ce que tu veux et te fermer au monde si t'as pas envie de le regarder ou au contraire, tout aspirer, prendre les sensations. Justement, et prendre les sensations sur le terrain, quand on fait un voyage à vélo, ça veut dire que d'abord, on ressent toutes les aspérités du terrain dans les bras. Ça veut dire que si la route est mauvaise, on va le sentir. Si l'odeur est bonne ou l'odeur est mauvaise, on va la sentir. En fait, quand on roule à vélo, les principales caractéristiques, c'est pas l'effort physique à fournir pour se déplacer, c'est l'interaction avec tout le milieu, à travers les températures, les odeurs, le terrain, l'humidité, évidemment, et l'alimentation. Si l'alimentation est mauvaise, ce qui arrivait souvent, on est plus faible et l'effort à fournir est plus intense. Et quand l'effort à fournir est plus intense, on arrive plus crevé à un endroit et forcément on inspire plus pitié. Mais en tout cas, surtout, ça facilite plus le contact. Parce que, par exemple, des paysans qui vous voient transpirer à grosses gouttes, ils vont pas se dire, tiens, voilà un touriste à plumer. Ils vont se dire, tiens, voilà quelqu'un qui transpire comme nous. Bon, je dirais pas que l'effort à fournir est aussi dur que celui des paysans chinois courbés dans leur rizière du matin au soir. Mais en tout cas, c'est un effort indéniable. Mais du fait de la beauté des paysages et de leur côté sauvage, c'est un effort qui passe très bien. Quand le paysage est beau, quand on vit dans un milieu magnifique, on est heureux d'y être. Quand on traverse des montagnes, c'est vraiment pas un souci. Je dirais qu'à la limite, vous voyez, quand je suis en voiture et je roule dans les montagnes, c'est peut-être joli, mais j'ai mal au cœur tout le temps et ça m'ennuie. Quand je suis à vélo, c'est beaucoup plus lent, je transpire, je suis fatigué, j'ai des courbatures le soir, mais je ressens à aucun moment l'envie de revenir en arrière ou de m'arrêter parce que c'est beau. Et le beau, ça me nourrit. Isabelle avait à peu près la même idée et elle aussi associait le vélo à la liberté. Il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Isabelle, plus qu'une fan de vélo, elle n'a jamais été fan de vélo en fait, elle a apprécié sur le moment pour tout ce que ça apporte et que je vous ai raconté. Mais plus que fan de vélo, elle est fan de cheval. Elle adore monter à cheval et quand on est à son rêve, c'était non pas d'aller en Syrie, mais d'aller en Mongolie, acheter deux chevaux et se balader en Mongolie à cheval. La Mongolie, c'est le pays du cheval. Vous avez 2,5 millions d'habitants, 2,5 millions de chevaux approximativement, plus ou moins selon les hivers, selon qu'ils sont rudes et que les chevaux meurent ou pas. Et donc, quand on est arrivé en Mongolie, elle a laissé son cheval chez un laissé son vélo chez un Français, enfermé à clé, bien attaché. Et elle a acheté 2 chevaux, elle s'est baladée avec, vécu son rêve pendant 2 semaines, 3 semaines, et après revendu les chevaux et partie heureuse d'avoir vécu une fois de plus son rêve. Donc le vélo, je pense que tu as compris à peu près pourquoi on l'a choisi. Est-ce que ça vous donne envie de partir? Est-ce que vous avez envie de voyager? Si vous êtes là, je pense que oui, en fait. C'est toujours les mêmes choses. C'est vrai que d'un routard à l'autre, le désir de s'imprégner, c'est le même. Et la recherche de rencontre, c'est aussi la même, je pense. Son trait? Oui. C'est mieux, hein? Souvent c'est mieux. Mais ce qui est drôle, c'est que tu regardes bien les routards qui vont dans tous les coins du monde. T'en as, sont des inconditionnels du vélo, mais d'autres, le vélo, ils n'en veulent pas. Ils veulent avoir le temps de s'imprégner du paysage pendant toute une journée, de voir toujours le même paysage. Quand ils rencontrent quelqu'un en chemin, de parler avec lui. Moyennant quoi, il marche. Moi, ça me paraît éreintant et insupportable d'avoir un sac à dos tout le temps. Mais eux, c'est leur seul moyen. Et je dirais qu'à la limite, la marche, le vélo, c'est le même combat. Tout ça, c'est un moyen pour découvrir. Et évidemment, il n'y a évidemment pas un qui est mieux que l'autre. C'est une histoire de goût et c'est une histoire de ce qu'on recherche. Alors, je vous avouerai que dans les pays musulmans, dormir à la belle étoile, c'est très, très difficile. Parce que vous soyez une fille ou un garçon, Quand vous arrivez quelque part dans la soirée, il y a forcément un musulman qui vous saute dessus et qui vous dit « Écoute, je t'ai vu, ça fait une journée que je te vois dans la région, je suis passé en voiture, je veux pas que tu meurs de faim, je veux que tu dormes bien, viens chez moi, je vais te nourrir, je vais te donner à boire, tu pourras te reposer, tu restes aussi longtemps que tu veux chez moi. » Et ça, c'est systématique, à peu près systématique, entre la Tunisie et le Pakistan. On n'a quasiment pas passé une nuit seul. Et à la limite, quand on refuse l'hospitalité, c'est presque insultant, c'est très très délicat. Et pourtant, quelquefois, on a envie d'être seul. Ce serait bien agréable, mais non, que ce soit la police, que ce soit des voleurs, des brigands ou des particuliers, tout le monde a envie de vous inviter et de vous aider. C'est phénoménal. Mais des voleurs, on n'a pas beaucoup rencontré, juste quelques-uns. Et en revanche, quand on arrive en Inde, c'est un autre monde. Et les gens, ils sont déjà assez occupés à lutter pour arriver à survivre et à se nourrir tous les jours. Et c'est vraiment difficile là-bas. Alors le petit touriste à vélo, il s'en fiche pas mal. Je les comprends bien. C'est avec tellement peu de nourriture pour tellement de personnes, je comprends que ce soit pas leur préoccupation. Mais les pays musulmans, c'est extraordinaire. Et quand on arrive en Europe, on se dit peut-être que des gens auront un peu envie de parler avec moi. Quelquefois, on a envie de se lâcher, quoi, de prendre un pot avec quelqu'un dans un bar, de prendre un café et puis de causer, c'est tout. Et ben, les gens, ils n'ont pas le temps. Hein. Quand on arrive en Europe, la richesse, finalement, plus que le travail ou plus que l'argent, c'est le temps. Celui qui a du temps, c'est celui qui peut vivre tranquillement. Et chez nous, c'est pas du tout évident. Donc, trouver des gens qui se mettent à disposition du voyageur, jamais. À disposition, ça ne veut pas dire aller lui piquer sa nourriture et son lit, hein, c'est pas ça. C'est juste passer un peu de temps avec lui. Donc, on dormait peu à la belle étoile dans les pays musulmans. Et à partir de l'Inde, beaucoup plus. En Mongolie, je dormais sous une tente. En Inde, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes relationnels avec les gens. C'était difficile. Toujours des problèmes de... Ils ont envie de piquer des... Enfin, il y avait des histoires de vol, il y avait des... C'est vraiment délicat. J'étais très tendu là-bas et quand je suis arrivé en Mongolie, j'avais besoin de voir personne. Ça tombe bien, il n'y a personne. Donc j'ai dormi dans ma tente tout seul, tranquillement, et là je me suis vidé, tranquillisé. Et j'étais bien heureux en Mongolie. C'est un pays absolument fantastique. Et quand quelqu'un a des problèmes perso ou à résoudre, s'il veut se retrouver en face de lui-même, c'est le pays idéal où aller. C'est là qu'on va se retrouver confronté à soi-même, avec personne pour vous dire des bêtises. Et c'est un pays qui permet de retrouver l'authenticité. Pardon ? Il y a quelques habitants. On les rencontre si on veut, en fait. On peut aller dans les villages, on peut aller dans les guerres, les rencontrer. Mais si on veut être seul, c'est pas difficile non plus. Et les habitants, ils sont très curieux là-bas, mais ils iront pas forcément à votre rencontre. Si vous allez les voir, ils vous accueillent sans problème. Si vous allez pas les voir, ils viendront pas vous voir. Et après la Mongolie, en Asie du Sud-Est, ça grouille de monde, mais ils sont adorables. Les relations avec les gens étaient très faciles. Et ils n'étaient pas forcément hospitaliers, mais en tout cas, on arrivait sans problème à passer un peu de temps avec eux, à s'amuser, à dialoguer, même par geste, parce que parler chinois, parler mandarin, parler viet, impossible. C'est trop dur, mais on se débrouillait et on a passé du très très bon temps, pas forcément chez les gens, mais avec les gens. Au Brésil, l'hospitalité, c'est un peu comme en Europe, c'est dur dur. Mais ça n'empêche pas les gens d'avoir un naturel et, incroyable, d'être extraordinairement chaleureux et d'avoir envie de parler comme un latin. Et voilà. Et puis au Portugal, en Espagne, c'est plus dur. Et en France, très très dur. Alors pour les langues, on était parti plein de bonne volonté pour apprendre beaucoup de langues. Et j'avais installé sur les vélos des petites tablettes, un plateau de McDonald's coupé en deux et attaché sur le guidon. Et sur ça, je plaçais mes carnets de vocabulaire sur lesquels je marquais le mot en français et à côté la transcription phonétique, par exemple en arabe. Alors en Italie, on a appris un peu d'italien et on arrivait à parler, ça allait bien, c'est entré comme dans une mode de beurre au mois d'août, facilement. Quand on arrivait en Tunisie, tout le monde parle français. Facile. Mais en Libye, plus grand monde ne parle anglais, ni français, ni autre chose, sauf arabe. Donc on a bien dû s'y mettre. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un effort sain et essentiel. Ça nous a permis de passer des moments extraordinaires avec les gens parce qu'ils voyaient que toute la soirée, on essayait de retenir le vocabulaire, de l'apprendre. Toute la journée sur la bicyclette, on relisait le vocabulaire, on l'apprenait, on le ressassait. Petit à petit, ça entrait. En Libye, Égypte, Jordanie, Syrie, on a parlé arabe. Et c'est bien rentré, enfin il y a 300 mots qui sont rentrés à peu près, ce qui est suffisant pour une petite conversation de base. On parlait, comme on dit en France, en petit nègre, ça voulait dire moi vouloir manger, moi avoir faim, moi aimer pays beaucoup parce que très joli, très plat, pas montagne, mais les gens comprennent, et quand il y a une interaction sur la base du langage, c'est merveilleux. En Turquie, on a commencé à apprendre un peu le turc, une centaine de mots, et puis ça rentrait pas si bien que ça. Et puis on change de région et il faut parler kurde. On oublie le turc, on parle kurde. Donc un nouvel effort. Et puis on passe la frontière avec l'Iran. Les gens parlent un peu kurde, mais ça ressemble plus à du persan. Et puis on sort du Kurdistan, on arrive à Téhéran et c'est encore une autre langue, c'est du pur persan. Et on arrive à Ispahan, c'est encore un autre dialecte. Donc là, trop d'efforts. On n'y arrivait plus, ça n'avait pas le temps de rentrer, c'était déjà sorti et c'était impossible. Donc on essayait de parler anglais et par geste. Le Pakistan, n'en parlons pas, là ça changeait à chaque département, c'était très très dur. En Inde, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de dialectes, et en plus l'écriture, c'est même plus l'écriture arabe qu'on arrivait à déchiffrer et phonétiquement à parler, enfin pas phonétiquement, mais en lisant les lettres, on arrive à former les mots dans les pays arabes ou Pakistan ou Iran. Mais en Inde, plus moyen de communiquer, heureusement une personne sur cinq parle anglais, donc on arrivait à se débrouiller. En Mongolie, c'était par geste. On a essayé d'apprendre pas mal de mots de mongol. On avait une cinquantaine de mots dans la tête, mais de toute façon, ils ne comprenaient jamais. Jamais, 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 jamais. Quoi qu'on dise. Et je crois qu'il faut séjourner plus longtemps pour s'imprégner plus de cette langue. Ensuite, la Chine, pareil, beaucoup de dialectes. Langue très difficile, et on savait juste dire bonjour, merci, au revoir, très joli et délicieux. Il faut avouer qu'en sortant de Mongolie, on n'a pas arrêté de manger, et donc ceci est très bon, on le disait à peu près 5 fois par jour, quand on mangeait dans un restaurant 5 fois par jour. On avait très faim et on a repris du poids très vite. Et au Vietnam, impossible de parler aussi, on connaissait que les mots essentiels. Ensuite, au Cambodge, les gens se sont remis à parler un peu anglais. Thaïlande, tout le monde parle anglais, c'est facile. Malaisie, on parlait anglais, on glissait pas mal d'expressions musulmanes, Alhamdulillah par exemple, Bismillah, Rahman Rahim, c'est des expressions qui, ça veut dire au nom de Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux, et c'est des expressions qui permettent d'établir déjà une connexion avec la personne qui est en face, avec des musulmans en tout cas. Alhamdulillah, par exemple, ça veut dire grâce à Dieu, j'ai bien mangé. Ça se dit quand on a bien mangé, ça veut dire grâce à Dieu. Quelques expressions comme ça qui revenaient tout le temps. Donc en Malaisie, anglais et un tout petit peu d'arabe, qui est les expressions qu'ils comprenaient. Au Brésil, c'était merveilleux, un pays tellement beau qu'on s'imprégnait de la langue, on s'imprégnait des gens, et c'était phénoménal. Ça rentrait très très bien le portugais. Ensuite au Portugal, évidemment, ça se passait bien. Et en Espagne, on parlait à peu près espagnol, Isabelle et moi, donc facile. Et en France, on avait du mal à communiquer avec les gens. Et au final, on a pas mal oublié l'arabe, complètement oublié le turc, un peu oublié les italiens, un peu oublié le portugais. Et si vous me demandez de parler italien maintenant, impossible. Il faut que je réapprenne tout ça. Ça reviendrait vite, le peu que je connais, mais ça, il faut repratiquer. Ben en fait, son mongol spaghetti, comme on dit, c'est-à-dire l'italien qu'elle a rencontré en Mongolie, il parlait très bien français, très bien anglais, très bien italien, très bien luxembourgeois, donc pas de frontière avec lui. Et elle parlait essentiellement français. Elle a essayé de se mettre au portugais avec lui, mais lui parlait déjà trop bien quand elle commençait à parler. Mais bon, l'italien, c'est une tellement belle langue qu'on n'a pas envie de l'oublier. C'est-à-dire, dès qu'on peut, on essaie de relire quelques passages et toujours de s'imprégner. Non, il ne fallait pas avoir deux passeports pour obtenir des visas. De façon très pratique, quand on était à Tripoli en Libye, on allait à l'ambassade du Caire, enfin au consulat d'Égypte, on demandait un visa qu'on obtenait en une semaine. Quand on arrivait au Caire, on allait à l'ambassade de Jordanie, on demandait un visa qu'on avait en une semaine pour entrer en Jordanie, et ainsi de suite. On a eu quelques petites difficultés, c'est que pour entrer en Tunisie, ils veulent qu'on ait le passeport, mais ils n'ont pas d'ambassade de Libye en Tunisie. Donc, logiquement, il fallait avoir le visa libyen avant d'entrer en Tunisie. Or, quand on était dans le pays qui précédait la Tunisie, c'était l'Italie. Et entre le moment où on était en Italie et le moment où on était en Libye, il y avait trop de mois et le visa n'aurait plus été valable. Donc, on s'est fait faire un deuxième passeport, ce qui n'est pas évident à obtenir. Il faut un sponsor ou une société qui justifie la demande de ce deuxième passeport. On s'est fait faire le visa libyen à Paris. On s'est fait envoyer le visa libyen sur le passeport français de Paris en Tunisie. On a remis la main dessus donc en Tunisie et on a pu arriver comme des fleurs à la frontière libyenne avec le visa. Là-dessus, à la frontière libyenne, il fallait remplir plein de formulaires en arabe, donc des torts de rire, on n'y comprenait évidemment rien du tout. Et donc on a essayé de se faire aider par les chameaux. J'avais marqué chacune des étapes par lesquelles on était passé et ils étaient contents de retrouver les étapes de Tunisie où on avait mis les pieds. Donc on avait quelques petits systèmes pour détendre l'atmosphère avec les douaniers. Quand on arrivait en Chine, les assistants de l'ambassadeur de Chine à Paris nous avaient dit qu'il faudra payer une taxe au poste frontière correspondant au prix du vélo. Si jamais vous voulez récupérer cette taxe, vous passez par le même poste frontière et vous récupérez tout l'argent, moins une petite taxe sur la taxe. Et bien entendu, on ne voulait pas payer le prix du vélo qui est assez exorbitant. C'est un vélo fabuleux, hein, de très bonne qualité, mais il vaut une fortune. Donc, pour ne pas le payer, on s'est fait faire des fausses factures par le fabricant. On estimait chacun des vélos à 300 francs et on se disait que ça devrait passer. Et au poste frontière, les douaniers n'ont même pas regardé les vélos. On est passé comme une lettre à la poste. Donc, parfait. On est arrivé à la frontière après entre la Chine et le Vietnam. Et là, d'autres amis qu'on avait rencontrés en cours de route et qui sillonnaient l'Asie à vélo nous avaient dit attention parce que au Vietnam, vous avez droit à une fouille intégrale, des pieds à la tête en passant partout. Et c'est pas très agréable une fouille comme ça. Et donc, par chance ou par malchance, on est arrivé à la sortie de la Chine, à la frontière de la sortie de la Chine, juste à l'heure de la fermeture de la frontière. On est passé dans la dernière minute et on est arrivé dans le No Man's Land qui sépare la Chine du Vietnam. Et quand on est arrivé à la frontière vietnamienne, c'était fermé. Donc on a été voir le bonhomme au garde frontière, on lui a dit on peut pas dormir ici. Il nous a dit effectivement vous n'avez pas le droit de dormir ici, on risque de vous tirer dessus. Donc il faut trouver une solution. Il est allé en parler avec son supérieur et le supérieur nous a pris directement lui-même pour contrôler tout. Il a regardé si les visas étaient en règle, visa de Vietnam. Et puis comme il n'était pas pressé, comme il n'y avait pas de problème de timing avec lui, enfin c'était il devait rester au poste frontière forcément, mais il n'avait pas 50 autres touristes derrière nous qui attendaient. Donc il a pris son temps, il est allé chercher des canettes de bière, il nous les a offertes, on a papoté un petit peu et on est reparti tranquille. D'autres petites anecdotes qui étaient intéressantes, c'était quand on sortait du Cambodge, On était resté un mois et un jour, donc on n'avait pas intérêt à moisir si on ne voulait pas payer une taxe, parce que le visa était limité à un mois. Donc on faisait profil bas, mais pas de chance. La veille de l'arrivée à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, on s'est fait piquer tous nos dollars, il ne restait plus rien. Et donc on ne pouvait plus se nourrir. Mais on avait roulé toute la journée sans manger dans la boue et les marécages, et avec le vélo sur le dos et les sacoches sur le dos. Donc on était éreintés et affamés, et on voulait absolument manger quoi qu'il arrive. Et demander à un Cambodgien s'il peut nous nourrir, c'est tout de même pas évident, parce que eux-mêmes ils ont à peine de quoi se nourrir. Il y a des famines épouvantables dues aux inondations qui fichent en l'air les récoltes de riz. Donc on voulait trouver un autre moyen pour manger. On arrive au poste frontière, comme d'habitude la barrière se ferme devant nous, il est 5h30, c'est terminé. Et on savait que de l'autre côté de la frontière, à 50 mètres, il y avait une machine à carte bleue où on aurait pu retirer de l'argent. Et on n'avait pas le droit de passer cette frontière. Donc on a été voir les flics. Et on leur a dit, écoutez, comment on fait pour manger? On aimerait bien manger, on aimerait bien dormir quelque part. On a 0 francs, 0 dollars, 0 rien du tout. On s'est tout fait piquer. Est-ce que vous avez une idée? Ils ont dit, ah, on a une petite idée pour vous. Vous allez dormir dans le commissariat, pas de souci. Mais pour manger, regardez, il y a un casino qui est ici, côté cambodgien. Vous allez dans le casino. Si on vous pose la question, pourquoi êtes-vous ici? Vous dites que c'est la police qui vous invite. Si on ne vous pose pas de question, ne parlez à personne, allez au buffet, mangez directement. Et ils nous ont juste regardé, et ils ont vu qu'on était couverts de boue des pieds à la tête. Et ils ont dit, ça vous entrerez jamais comme ça. Donc on leur a dit, pas de problème, on a des habits propres, ce qui était faux bien entendu. Les seuls habits qu'on avait étaient sur nous. Donc, on est allé dans un chantier à côté où ils avaient un tonneau rempli d'eau. Et on a lavé, on s'est mis en maillot de bain. On a commencé par se laver à l'eau froide, mais comme il faisait bon, c'était pas un problème. Donc, une fois qu'on avait enlevé toute la transpiration, brossé vaguement les cheveux plein de crasse, on a pris les habits, on les a lavés dans l'eau, ils étaient trempés, on les a un peu essorés, remis sur nous. Mais quand un habit est trempé, ça se voit pas forcément si tout est trempé. Le seul hic, c'était que quand on marchait, nos chaussures aussi étaient trempées parce qu'elles étaient tellement couvertes de boue qu'on a dû les nettoyer d'un bout intégralement. Quand on marchait, on faisait un peu comme une funèse dans Rabbi Jacob. On faisait des bulles, on faisait des bruits d'eau en marchant. Donc, c'était pas évident d'être discret. Cela dit, on est entré l'air mine de rien dans le casino sans les vélos qu'on avait confiés aux flics dans le commissariat. On est entré dans le casino, on est allé en faisant la gueule comme tous les Thaïlandais qui allaient dans ce casino. Directement vers le buffet, personne ne nous a posé de questions. On s'est baffré, on a mangé comme des fous, et là on a poussé le vice jusqu'à demander un café à une serveuse qui passait par là. Et puis on est ressorti, mais heureux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et on est allé dormir dans le commissariat. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on s'est dit, oh, on a déjà très très faim. Et on sait qu'il y a une bonne route cet après-midi. Donc on est réentré dans le casino, c'est un casino 24h sur 24. Et on a le même cinéma, même scénario. On est allé manger, on est ressorti, le ventre plein, alhamdoulilah. Et on est reparti sur les vélos, on a passé le poste frontière, on a pris un peu d'argent du côté thaïlandais et on a roulé. Et là on s'est arrêté dans une pompe à essence pour nettoyer les vélos au Karcher, parce qu'ils étaient couverts de boue et aussi bien entendu. Et qu'on sait que c'est pas très bon d'avoir de la boue dans le dérailleur, dans les pignons, dans tout ça, ça use un petit peu les pièces. Et quand il y a un des Thaïlandais qui était dans la pompe à essence, qui nous a vus en train de nettoyer tous les vélos au Karcher, nous a vus un peu dégoûtants, et il s'est dit, je vais les aider. Il a acheté deux petites bouteilles de boissons gazeuses pour les soi-disant pour les sportifs. Et il nous a dit, c'est la limonade, prenez. Très bien, j'en ai bu un peu, c'était assez bon, c'était bien sucré. Isabelle n'en voulait pas, c'était trop sucré pour elle, donc j'ai vidé les deux bouteilles et je suis parti. Et en fait, c'est des boissons aux amphétamines. Et là, j'ai carburé, ça allait, j'ai foncé, mais c'était un 35 km/h de moyenne toute la journée à fond la caisse. Pendant, je sais pas, j'ai dû faire 120-130 km, alors que ça montait, ça descendait, ça remontait tout le temps. Et c'était sur une autoroute, ça roulait d'enfer. Mes jambes me portaient toutes seules, c'est hallucinant. Alors j'ai évité de continuer avec ce système parce que c'est artificiel et que le but d'un corps, c'est qu'il marche toute la vie, c'est pas qu'il marche pendant 10 ans. Mais j'ai apprécié le service, ça facilite les choses. Alors toi, tu vas repartir à vélo pendant pas mal de kilomètres pour ton voyage, mais si un jour tu es à bout de souffle, offre-toi une petite boisson comme ça occasionnellement, je garantis que tu sentiras pas tes ailes, elles vont te porter toutes seules, ton cerveau tournera tout seul, c'est incroyable, ça marche bien. Et à mon avis, faut pas trop abuser. Ah oui, des autres petites difficultés qu'on rencontrait à la charnière entre des pays. C'était par exemple entre Singapour et le Brésil, il fallait prendre l'avion. Et prendre l'avion avec 45 kg de bagages, c'est jamais évident. Donc on mettait les vélos en soute, les vélos faisaient 19 kg pas chargés, juste avec les sacoches et les porte-bagages et toutes les affaires dessus, mais pas les vêtements, pas tout ça. On mettait tous les vêtements sur nous, on mettait le sac de couchage autour de la taille ou dans un petit sac à dos. Et tous les outils des vélos étaient dans les poches, ici, le caméscope en bandoulière, l'appareil photo en bandoulière, enfin tout en bandoulière, l'ordinateur en attaché case, on avait un petit Palm Pilot ou un machin de ce style-là qu'on mettait dans la poche, tout sur nous, sauf le vélo. Et voilà, et on passait les postes frontières comme ça, à chaque fois qu'on passait dans un rayon X, il fallait tout ressortir, tout remettre dans leur petit baquet, parce qu'on faisait ding 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 systématiquement. Mais en revanche, on n'a jamais dû payer un seul copec en bagages supplémentaires dans les soutes. Mais en revanche, il faut bien dire que nos bagages à main, c'était 15 kilos à chaque fois. On faisait semblant que c'était très léger, mais c'était lourd. Mais ça valait le coup. On a économisé des centaines des milliers de francs peut-être avec ça. Quelques questions ? Un autre petit point qui a été amusant, c'est quand on est passé du Pakistan à l'Inde, au poste frontière, le douanier un peu trop zélé s'est dit « je vais fouiller leur vélo, on sait jamais ». Et là, bien mal lui en a pris parce qu'il a commencé à voir ce que c'était. On sort la plus petite sacoche, on sort le sac avec les médicaments, on sort tous les médicaments, on ouvre chacun les uns après les autres, on lui montre tout, on lui montre les documentations. Donc déjà, une demi-heure pour la première trousse à pharmacie. Après, on lui dit maintenant il y a cette trousse là, et on avait une douzaine de poches avec remplies de choses, et chaque sacoche contenait des sacs qui contenaient des sacs qui contenaient des affaires. Donc au bout de la première poche, il laissait tomber, il a dit c'est bon, allez-y. Donc si vous voulez faire du trafic de petits objets, vous les mettez dans le cadre du vélo, ça passe facile. Cela dit, je vous conseille pas, parce que le jour où vous faites piquer le vélo, le jour où votre vélo se casse, vous avez un accident, là vous êtes raide, grillé. Mais quand on arrive dans un pays arabe, globalement c'est les pays arabes, ou bien la Chine, ou bien l'Iran, ou bien le Vietnam, il ne faut jamais déclarer qu'on est reporter, jamais qu'on est photographe, jamais qu'on est journaliste, toujours dire je suis soit éducateur, soit prof, soit ingénieur, ça passe très bien, soit médecin, ils adorent les médecins. Mais alors tout ce qui est lié à la photographie, au reportage, à éviter de toute urgence, sinon vous passez une nuit au poste le temps qu'on fouille tout, qu'on regarde si vous avez le bon visa. Et donc quand vous demandez un visa, demandez évidemment, ne marquez jamais sur le passeport que vous êtes journaliste. J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Écoutez, il doit y avoir des Vietnamiens qui parlent français, mais on en a rencontré deux ou trois sur les pas mal de millions qu'il y a, je sais pas, 60 millions. On en a vraiment rencontré très très peu, et en général, ils parlent un français relativement ancien, pas forcément compréhensible, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le pratiquer tous les jours, donc ça se déforme vite. Au Vietnam, en fait, on avait un peu de difficulté avec la population. C'était un peu comme en Inde. La population est très corrompue. C'est-à-dire que quand on a eu affaire à un commerçant, parce que c'est uniquement notre cas, et qu'on achète une salade, eh bien, il nous annonce un prix au départ, qui est, comme par hasard, le quadruple du prix qui est indiqué sur l'étiquette à côté. Donc c'est un peu frustrant, un peu énervant. On négocie un prix, on arrive à un consensus. Et pendant qu'on déjeune, il jette un petit bout de papier sur la table, c'est un nouveau prix. Alors on lui fait comprendre que pas question, on a établi un prix et ce sera ce prix-là et pas un autre. Mais on a déjà l'estomac un peu noué. Et puis on finit le repas, on vient pour le payer, il dit non, tu payes plus. Et puis il y a tous les voisins, tous les collègues ou tous les copains qui sont là qui disent mais non, le prix dès le départ c'était autre chose. Et ça, c'était à partir de la frontière vietnamienne jusqu'à l'autre frontière vietnamienne. Donc c'était vraiment une spécificité du pays. Et il faut savoir que les commerçants, quand ils sont dans leur boutique, ils ont des inspecteurs des impôts qui viennent les voir et qui leur disent « Ah, vous avez trois ampoules, il y a une nouvelle loi sur les ampoules. Si vous avez plus de deux ampoules, vous payez une taxe supplémentaire en liquide. » Donc, j'exagère un petit peu, mais globalement, les collecteurs d'impôts et tous les gens qui travaillent plus ou moins avec le gouvernement sont ultra corrompus et vont s'arranger pour soutirer de l'argent de toutes les manières. Le commerçant, il faut bien qu'il s'en tire lui aussi. Quand il voit un touriste ou un voyageur à roulette, il y a de l'argent à récupérer. Donc, il ne va pas hésiter. Et mine de rien, ce genre d'a priori, le fait que quand on va vers un commerçant, on se dit, déjà on est en rogne, déjà on se dit, je vais devoir négocier pour commencer, je sais qu'il va m'arnaquer pendant la négociation, je sais qu'il va m'arnaquer après, c'est insupportable. Et ça fait que pendant qu'on était au Vietnam, on essayait à peine de parler avec les gens, tellement on se disait, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Il n'y avait que dans les montagnes ou dans les coins reculés qu'on trouvait toujours la même humanité décapante qui se trouve dans toutes les campagnes finalement. Et que là, on avait des accueils phénoménaux et d'une gentillesse incroyable. Et quand on avait des petits cadeaux, souvent, quand on les offrait, ils disaient « Non, non, on n'en veut pas, c'est chez toi, chez moi. » Mais ça, c'est les campagnes. Cela dit, important, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des séjours incroyablement beaux en Inde et au Vietnam, qui ont adoré la population. Pour qui ça s'est très bien passé. Donc, tout ce que je dis, il faut le mettre, faut relativiser, quoi. Chacun son voyage. Et souvent, on me demande quel est le pays que j'ai préféré. Il n'y a pas de réponse pour ça. Je pense qu'il y a 21 réponses. Et chaque pays a des côtés qui sont attrayants, des côtés qui sont repoussants. Et en plus, ça dépend du voyageur. Je dirais que pour les paysages, ce que j'ai préféré en tout, c'est évidemment la Libye, la Syrie, le Pakistan, l'Iran, la Mongolie et le Brésil. Pour ce qui est de la population, c'est la Libye, la Syrie, la Turquie, le Pakistan, le Brésil, le Cambodge, la Mongolie. Ça se recoupe plus ou moins tout ça, mais dès qu'on est sorti d'Europe, c'est le bonheur. Et je dirais, il n'y a que en France qu'on a été moins sensible au paysage. Et pour moi, au Cambodge, j'ai pas adoré le paysage cambodgien. Mais ça, une fois de plus, ça dépend de chacun. Et en plus, on aime 10 fois plus un pays et le paysage qu'on a quand les gens qu'on rencontre sont souriants. Donc, Malaisie, Thaïlande, Cambodge et Vietnam, je t'en parle pas, c'est fabuleux. Et quand le contact avec les gens est facile. Donc, au Cambodge, extraordinaire. Si, il y a eu quelques petits accidents. En fait, quand on parle du voyage, autant Isabelle que moi, on a du mal à parler de ce qui n'a pas été, parce que c'est évidemment pas ce qu'on retient. C'est l'un et l'autre, on n'a que des beaux souvenirs qui reviennent, et la mémoire, instinctivement, élimine tout ce qui ne va pas. Mais on a eu quelques petits accidents. Isabelle, ça lui arrive assez fréquemment de traverser un carrefour en regardant derrière pour me parler. Donc dans ces cas-là, quand une voiture traverse, ou lui coupe la route, ou un vélo, lui coupe la route, elle fonce dedans. Donc elle a fait quelques petites chutes, mais c'était pas des chutes violentes. Et ça, c'est plutôt de l'étourderie qu'autre chose. Elle n'a pas eu d'accident grave. En revanche, pour moi, j'étais en Sicile, je roulais sur une route, j'apprenais mon vocabulaire italien. Et puis, il y a un bonhomme qui doublait une voiture roulait derrière moi. Et un type l'a doublé, et quand il est arrivé à ma hauteur, il allait un peu trop à droite. Et j'étais à sa droite. Donc... Il m'est rentré dedans, il m'a envoyé balader, j'ai atterri comme un sac à pommes de terre dans les orties, enfin pas dans les orties mais dans les ronces. Donc ça m'a un peu déchiré la peau mais ça n'a rien cassé. Et le type a immédiatement téléphoné à la police, aux pompiers, l'ambulance, ils sont tous venus tout de suite. J'ai été transporté dans un hôpital pour qu'on me recouse et il n'y a pas de vraie douleur. J'étais content quand je me suis relevé de sentir que tout allait à peu près bien. Le cou ne bougeait plus parce que les muscles avaient été froissés, forcés. Donc au bout de 15 jours ils sont remis en place, ça s'est bien passé. Mais globalement, après que j'ai été recousu, ça allait bien. Et en plus, l'assurance du bonhomme qui m'est rentré dedans nous a donné de l'argent. Pas plus mal, ça nous a assuré la vie en Tunisie et en Libye. Donc, impeccable. Et en plus, ensuite, j'ai eu un petit accident en Inde. En Inde, c'est une circulation de fous, de tarés. Les gens sont violents et dangereux entre eux, et quand on voit un petit touriste à roulette, on n'a pas spécialement d'égard pour lui non plus. Donc un jour, il y a un tracteur qui était à côté de moi, et quand il a vu qu'il me longeait, un petit coup de volant pour me renverser, je suis tombé par terre, je me suis pété la figure. Et en fait, c'est rien de tomber par terre, mais par malchance, je me suis rattrapé sur mon poignet et je me suis un peu tordu. Et honnêtement, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quelques égratignures, un poignet tordu, mais j'avais une bonne entorse. Et je savais pas trop comment l'arranger. Ça fait mal pendant 2 mois. Et j'ai pu me refaire mettre l'os en place, ou les muscles en place, quand j'ai rencontré une kiné en Chine. Une kinésithérapeute française en Chine. Donc, pas de problème sérieux. Et les vélos, comme d'habitude, quasiment pas cassés, impeccables. En revanche, la mécanique humaine, c'est plus fragile. Sinon, un tout petit accident de rien du tout en Thaïlande. Un type qui m'a coupé la route, donc j'ai pilé, et il y avait du gravier par terre, donc je suis étalé, j'ai failli passer sous ses roues, mais je me suis arrêté quelques centimètres avant. Donc il a eu droit à un caillou de ma part sur sa bagnole. C'est comme ça qu'on règle les comptes entre chauffards à l'étranger. Donc finalement, rien de sérieux, rien de dangereux. Et quand on doit essayer de parler de problèmes, les problèmes réels qu'on a eu, Isabelle et moi, c'était les relations entre nous qui étaient au début vraiment délicates, parce qu'on était deux cousins et pas habitués à vivre sur le dos l'un de l'autre tout le temps. C'est pour ça qu'à partir du moment où on se séparait et on se retrouvait quelques temps et on se reséparait, on arrivait à s'aérer et à vivre notre vie et à vivre notre voyage chacun, un voyage très différent. Autre difficulté, c'était jamais pour Isabelle qui a des intestins en béton, mais pour moi systématiquement, j'ai des intestins épouvantables. C'est dès que je buvais de l'eau qui n'était pas de la Volvic, ça n'allait pas. Et comme il n'y a jamais de Volvic, ça n'allait jamais. J'avais quasiment 2 semaines par mois ou 3 semaines par mois une bonne diarrhée. Et pour la calmer légèrement, je mettais des micropures dans l'eau, mais ça marchait pas toujours. Et je prenais du RC Fluoryl, qui calme à peu près les effets. Mais c'est épuisant. Et quand on doit monter des côtes ou rouler contre du vent, on perd toute son énergie. Vraiment, complètement tout. C'est pas que c'est difficile, c'est toujours un plaisir, mais en tout cas, ça use. Et en Mongolie, la nourriture, on l'a détestée. C'était du gras de mouton, du beurre gras rance à manger à la cuillère, un petit peu de gris, un petit peu de riz dans du gras de mouton à nouveau, du fromage dur comme du béton. Franchement, c'était pas notre nourriture, on n'était pas très attiré par ça et on a eu du mal. Donc on mangeait très peu. J'avais acheté 21 paquets de nouilles chinoises et nouilles de 2 minutes qui se font en 2 minutes, mais comme notre réchaud ne marchait pas, j'ai mangé froide. J'ai cassé en petits morceaux, je les mettais dans mon verre, je versais de l'eau et elle se ramollissait toute seule en une demi-heure et je les mangeais après. Donc une fois de plus, quand on a très faim, c'est très bon, mais ça nourrit pas son homme. C'est pas les bonnes protéines, ça manque de vitamines, c'est pas ce qu'il faut. Donc au bout de 2 semaines en Mongolie, quand je parcourais 80 km dans la journée, j'étais lessivé. Et puis ensuite, on est sorti de Mongolie, on est allé en Chine, et là, c'était une nourriture merveilleuse, une nourriture excellente, des restos partout, pas cher, et on faisait 5 repas par jour, et on a repris du poids tout de suite, on a repris nos 10 kilos d'un coup, mais alors on s'est empiffré comme des fous. On était allé dans un restaurant qui appartenait à un ami d'un copain chinois, et il nous a reçus dans son restaurant et dans son hôtel pendant une semaine, et il nous a dit qu'il a jamais vu des gens manger autant. Ils apportaient les pleins les uns après les autres et on les vidait tous, à toutes les heures de la journée. Donc ça fait partie des gros plaisirs du voyageur. C'est un voyageur, ça marche à l'estomac de toute façon. C'est l'estomac remplace le cerveau et ça guide. En Chine, combien de kilomètres, c'est ça? Je vous ai pas entendu. Ah! Difficulté pour parler leur langue. Évidemment, on parlait quasiment rien. Mais en dehors de ça, les autorités, ça se passait très bien avec eux. Les gens étaient globalement adorables. Tout le monde nous avait dit, vous verrez, les Chinois, ils sont pas sympas, ils sont pas communicants, pas hospitaliers, pas faciles, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Et franchement, c'est pas l'impression qu'on avait. On est tombé sur des gens en général très gentils et quelquefois on bénéficiait de l'hospitalité. On avait souvent droit à la confiance des gens. Par exemple, on s'était un jour arrêté dans un bar tout près de la Grande Muraille et on a consommé une petite glace. Il faisait bien chaud, une petite glace. Et à la fin de la glace, on a vu qu'ils étaient en train de préparer un peu de nourriture parce qu'il y avait une fête. À ce moment-là, je sais plus ce que ça célébrait, la fête. Et ils nous ont dit venez manger avec nous. Et quand quelqu'un vous invite, c'est rarement qu'il a l'intention de vous faire payer. Donc on y est allé et ils nous ont offert effectivement manger un peu de maïs, du riz, c'était bon. Et c'était notre deuxième repas après la Mongolie en plus. Et un peu d'agneau, un peu de viande. Donc voilà, et quand on est allé se balader sur la Grande Muraille, après, quand on est revenu, ils nous ont dit ben, dormez ici. Ils ont ouvert leur restaurant, ils nous ont mis à côté du bac à glace. Vous imaginez, bac à glace rempli. Ils nous ont dit vous dormez ici. Donc ça veut dire que c'est de la confiance. On a évidemment pas touché au bac à glace, hein, mais on a vachement apprécié cette démarche qui consistait à nous mettre à côté de leur réserve de nourriture et savoir qu'on n'irait pas y toucher et nous accorder cette confiance totale. Quel itinéraire ? Alors, la Chine, c'est grand, hein, vous avez dû remarquer, ça fait 45 fois la France, dans ces eaux-là, ou 25, je ne sais plus. Et donc, on ne peut pas tout faire à vélo en un mois. Donc, quand on est venu de Mongolie, on a pris le Transmongolien, qui est un train mythique, un train magnifique. Enfin, c'est pas tant mythique que ça, c'est pas si ancien, mais c'est un très joli train en bois. Et on est arrivé à 150 km, 160 km au nord de Pékin. Et là, on a roulé un... C'est pas vrai. On est arrivé à 1500 km de Pékin, dans la Mongolie intérieure. Là, on est descendu du train et on a pris un bus qui nous a un bus de nuit, c'est-à-dire avec des couchettes, qui nous a mené à 160 km au nord de Pékin. Et là, on a posé les vélos, on a roulé vers la muraille de Chine à 100 km de Pékin. On est resté une journée dans ce coin-là pour faire des images, pour apprécier le lieu, pour se détendre, pour vraiment apprécier la Chine, pour manger. Et puis ensuite on a roulé vers Pékin, c'était une grande banlieue qui a duré 60 km de banlieue. Et à Pékin on est resté une petite semaine, le temps de faire quelques reportages, de rencontrer des musiciens comme d'habitude. On a participé à une émission de Reuters, c'est une agence de films de télévision, enfin de films qui sont diffusés à la télévision. Ils ont fait un petit reportage sur nous et ensuite on est reparti un peu à vélo, beaucoup en train jusqu'à Shanghai. Et à Shanghai, on a rencontré d'autres musiciens. On a rencontré cet ami chinois qui nous hébergeait dans son hôtel. On a été faire un tour à vélo à Suzhou, qui est une ville à l'est de Shanghai, à l'ouest pardon, de Shanghai, à 120-150 km dans ces eaux-là. On a visité le coin, on s'est promené dans les environs. On est revenu à Pékin, à Shanghai, pardon. Et là, on a repris un train qui nous a fait parcourir 1800 km, je crois, jusqu'au Guangxi, à Kuilin. Et à partir de là, on a lâché le train, évidemment, et on s'est baladé à vélo dans des petits villages au nord de Kuilin. Alors, comment ça s'appelait J'ai oublié un peu les noms dans ces coins-là, je vous avouerai. C'est bien chinois, il y a Pingpo, entre autres, et des villages où on pouvait rencontrer des minorités d'Hong. Évidemment, ces minorités, ils ont leur musique propre et leur architecture, une architecture incroyable qui vaut le coup d'être découverte. Enfin, pas découverte par nous, mais appréciée par nous en tout cas. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Alors, les musiciens que je vous montre là, c'est des musiciens d'Hong qui sont juste devant un pont construit intégralement en bois, un pont très connu dans leur village. Et on avait décidé de les rencontrer parce qu'ils ont une culture vraiment à défendre, très intéressante. Alors, quand on les a quittés, on a pris leur adresse, comme les adresses de tous les musiciens. Et Isabelle, ma cousine, elle est repartie, elle est en Chine actuellement. Il y a deux jours, elle était avec eux et elle les a rencontrés. Et grâce à un partenariat qu'on a établi avec la SACEM et grâce à une bourse que la SACEM nous a donnée, on peut offrir à chacun des musiciens le bouquin. Alors j'imagine que ça leur fait relativement plaisir de voir qu'ils sont en couverture d'un livre qui se vend à 5000 exemplaires en France, qui va peut-être être traduit en anglais pour être diffusé aux US. Ça leur fait plaisir aussi de voir qu'à l'intérieur, il y a des CD audio avec leur musique, et donc qu'on peut l'entendre partout sur Internet, mais on peut aussi l'entendre en écoutant et en regardant leurs photos. Ça leur fera plaisir aussi de recevoir un peu d'argent pour les musiciens professionnels, l'argent versé par la SACEM. La SACEM, ça défend les droits d'auteur, je vous rappelle. Et donc, leur objectif, c'était de rémunérer ces musiciens quand c'était des professionnels et quand c'était des gens qui jouaient pour leur plaisir et qui dont le don de leur musique était totalement désintéressé. L'argent de la SACEM va permettre de leur acheter des cadeaux qu'ils n'auront jamais l'occasion de s'acheter, mais qui leur feraient très plaisir. Donc Isabelle est allée en Chine avec ses 15 bouquins dans le sac à dos et va offrir les 15 bouquins aux 15 musiciens qu'on a enregistrés à droite et à gauche, et donc une enveloppe pour chaque musicien. Voilà, notre prochaine étape, c'est de partir dans un an à peu près à la recherche des autres musiciens qu'on n'a pas rencontrés. avec un grâce à un partenariat établi avec le ministère des Affaires étrangères. On voudrait organiser des expositions de photos itinérantes et multimédia. Ça veut dire avec les photos, les musiques, une borne internet interactive, et puis le film projeté sur un écran. Et évidemment, rencontrer les musiciens, leur donner le bouquin, et en fait mettre en valeur leur culture dans son contexte. Et faire venir là des artistes français qui vivent à l'étranger, des artistes étrangers en fait, et les artistes du pays dont ils sont. Évidemment, on paierait aux musiciens le voyage jusqu'à la capitale où est organisée l'expo de photos, et on lui paierait l'hébergement aussi. Tout ça, ça coûte pas très cher dans ces pays-là. C'est 100 francs de transport pour traverser 1500 km. C'est une nuit dans un hôtel, ça coûte 20 francs, 30 francs. Donc c'est pas ça qui va nous tuer. En tout cas, c'est passionnant à mettre sur pied. Et c'est aussi un gros plaisir de retrouver ces musiciens qui, à l'origine, nous ont quasiment tous donné la musique de façon totalement désintéressée. Bon, il faut... Pardon. Pas du tout. Tomber sur des musiciens, c'est pas par hasard. Il faut vraiment les rechercher. Ah oui, mais même... on a une photo, par exemple, dans ce bouquin, où on voit un cordonnier en train de jouer de la musique. Ben, c'est par chance, Isabelle a été accueillie par le seul chrétien qui nous a accueillis en 2 ans, dans un village en Syrie. Ça arrive qu'un chrétien reçoive quelqu'un. Et par chance, il faisait partie d'un petit groupe de musique traditionnelle. Il jouait du ney, qui est une sorte de pipeau. Et donc ce musicien nous a joué pour Isabelle. Isabelle était seule avec lui à ce moment-là, et il a joué pour elle un petit morceau. Forcément, elle a enregistré, et il se trouve que c'était très joli, donc c'est parfait. Donc quelquefois, des rencontres mènent à de la musique, mais c'est loin d'être un cas systématique. Mais une autre anecdote qui est intéressante, c'est que Isabelle et moi, on roulait ensemble dans le désert syrien, et à un moment on s'est séparés, on avait besoin de ça pour se ressourcer, et on s'est dit rendez-vous à Hama, en face du palais Azem, qui est le seul point qu'on connaissait à Hama, le seul point très connu. Et par malchance, il y avait 2 palais Azem. Il y avait le palais un peu moderne, le palais un peu ancien. Et je suis allé au palais moderne d'abord, et on m'a dit non, il n'y a pas d'Isabelle ici, personne à vélo, allez à l'autre palais. Donc j'y suis allé, et j'ai pas trouvé le palais Azem, mais j'ai trouvé une baraque qui s'appelait le syndicat des artistes, qui était juste en face, parce que le palais Azem c'était pas marqué dessus, mais le syndicat des artistes c'était marqué en gros. En anglais, évidemment.
Nous allons une gagnante de Québec. Elle devra se présenter aux dames du Québec. Madame Jacques, Janine Jacques, elle vient de se présenter aux dames du Québec. Vous venez de gagner un cadeau. Merci.
Donc, je suis entré dans le syndicat des artistes. Et je suis tombé sur le directeur du syndicat des artistes qui m'a demandé ce que je faisais par là. J'ai montré le vélo, j'ai tout expliqué. Il dit « Ah, musique, c'est intéressant ça. On va peut-être faire quelque chose ensemble. » Et puis il m'a dit « Mais d'abord, vous prenez un thé. Première chose, on prend un thé, après on parle. » Donc j'ai pris le thé, bien sûr. Et Isabelle est arrivée sur ce. Et quand elle est arrivée, elle a vu mon vélo dans le syndicat des artistes. Elle est entrée directement. Et on a parlé avec ce directeur, qui est en photo dans le bouquin. Il nous a dit « Écoutez, on va vous organiser un petit truc, on va vous organiser un concert, je vais rassembler mes copains. Moi-même, je suis chanteur de musique traditionnelle. Mes copains jouent du violon, du darbouka, des instruments bien traditionnels. On va s'habiller en vêtements, en costumes traditionnels aussi. Et on va vous organiser le concert dans le Palais Azem, qui, pour l'occasion, ils l'ont fermé au public. Ils l'ont ouvert pour nous. Et c'était fabuleux. C'était une rencontre splendide. L'endroit est d'une beauté incroyable. Pas un touriste, pas un clic d'appareil photo. Juste de la musique pure du coin, locale. Et évidemment, tout ça que pour nous. Donc vous imaginez bien qu'on a été heureux. Et en fait, quand je vous dis que la musique, c'est un passeport, c'est quand on arrive quelque part et qu'on fait écouter à quelqu'un les musiques qu'on a récupérées, que c'est quelque chose auquel il accroche, s'il est passionné par ça, il va tout vous lâcher. Et ça, c'est fantastique. Ça ouvre des portes vraiment géniales. Tout ça en se rappelant qu'on n'est pas musicien, ni Isabelle ni moi. Plus de questions ? Bon, je vais peut-être laisser la parole au conférencier suivant, parce que j'ai dû parler légèrement plus d'une demi-heure. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et participé. Et je vous souhaite de très très beaux voyages et de passer du bon temps ici, dans le salon. Merci aussi à vous, ingénieur du son. Et puis, peut-être à bientôt. Pour info, ce soir, sur les chaînes Mezzo et Voyage, qui sont sur le câble, notre film est diffusé. Sur Mezzo, c'est à 19h15. Sur Voyage, c'est à 20h. Et c'est un film qui fait 60 minutes à peu près et qui retrace tout notre voyage de Paris à Pékin en passant par l'Asie du Sud-Est. Il a été monté par une boîte de prod. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas des images complètement amateurs et fouillis. C'est vraiment quelque chose de construit et où vous retrouverez bien tout ce que je vous ai raconté, agrémenté des images, quoi, agrémenté du réel. Et par ailleurs, donc on a sorti un bouquin que j'ai ici et qu'on va vendre. Enfin, qu'on vend actuellement au stand de la Guilde Européenne du Raid. Je crois que c'est vers le F31. C'est tout près de cet endroit-là. Et sinon, il est disponible à la FNAC et dans 400 points de vente en France, dans des librairies, et par correspondance aussi. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on est parti de Paris pour aller à Pékin. On a un site internet qui s'appelle paris-pekin.org, comme organisation. paris-pekin.org. Et à partir de ce site, on peut écouter les musiques, regarder les photos, lire le carnet de bord, avoir des conseils pour les voyages, aller vers d'autres sites internet qui peuvent vous intéresser pour d'autres voyageurs, acheter la cassette vidéo du voyage, acheter le bouquin, et puis voyager. Donc c'est paris-pekin.org. Une fois de plus, merci pour votre écoute. Qui eux-mêmes étaient tordus de rire en voyant qu'on essayait de parler arabe avec les quatre mots qu'on avait appris.